When you sing a song,
quand tu chantes une chanson, tu as peut-être des questions.
And my question is,
et ma question, c'est
do you believe
est-ce que tu crois
last line?
Cette dernière phrase
He has never failed.
Il ne m'a jamais abandonné. Il ne m'a jamais lâché encore.
And he's never gonna fail me. Amen? You agree?
Et tu es d'accord qu'il ne t'a jamais abandonné et qu'il ne t'abandonnera jamais? L'idée, c'est que nous croyons en la fidélité de Dieu. Nous chantons notre théologie, nos croyances. Et ce que nous chantons, ce sont les choses auxquelles nous nous accrochons, et c'est vrai. Quand tu viens louer, certains disent « Oui, nous exprimons nos émotions ». Et c'est bien, mais si notre théologie est juste dans la tête et elle ne rentre pas dans le cœur, c'est pire. Oui, il faut que ce soit dans le cœur. Alors nous venons. Merci pour l'équipe de louanges d'avoir conduit la louange. Ça fait plaisir d'être là aujourd'hui. Je ne sais pas si... certains ont compris, ceux qui sont de passage, ceux qui ne connaissent pas Royce, pourquoi est-ce que Royce a eu autant d'applaudissements avant? C'est parce qu'il nous visite aujourd'hui, il était un ancien ici à l'église,
et
quand il nous rend visite, il est tout de suite dans l'équipe de louanges. Il est venu de Francfort en Allemagne. Il ne peut pas venir chaque semaine, mais
voilà,
s'il veut, il peut.
Mais
vous rendez-vous compte, j'ai compris des choses quand Arsène a parlé. Je comprends ce que ça veut dire le mot bus. On dit là ou le bus? Ah, merci, c'est le bus. Ah, merci, c'est une de nos tutrices qui m'a soufflé la réponse. Je crois que je m'aventurerai un peu si je parlais un peu plus français. Là, je m'arriscerai. Alors, juste pour vous dire concernant la retraite de Tychos, le week-end, le bus t'emmènera, mais il te ramènera aussi à Strasbourg. On ne va pas rester dans les Vosges. Alors, nous avons commencé une partie d'étude des Écritures, une partie de l'étude des Écritures concernant l'Église lors du Trinity Day. Alors, concernant le temps de retraite, j'espère que la majorité de l'Église pourra venir à ce week-end. Et s'il y en a qui ont des soucis financiers pour y venir, vraiment, ne soyez pas freinés par ça. Parlez à Arsène. Sachez juste qu'il n'y aura pas de culte le dimanche ici lorsqu'il y a le temps de retraite de l'Église. Et je vous invite à prier pour le temps de culte, le temps de retraite, le week-end qu'il y aura. Priez que Dieu nous visite puissamment. Et notre équipe de prière va vraiment prier pour que nous ayons une vraie rencontre avec Dieu pendant le week-end de retraite. Et priez vous aussi pour ça. J'aimerais que vous considériez ce que ça veut dire, ce passage que nous allons lire maintenant, dans 1 Pierre chapitre 2, versets 11 à 12. « Bien-aimés, je vous encourage en tant que résidents temporaires et étrangers sur la terre à vous abstenir des désirs de votre nature qui font la guerre à l'âme. Ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants, afin que, là même où ils vous calomnient comme si vous faisiez le mal, ils remarquent votre belle manière d'agir et rendent gloire à Dieu le jour où il interviendra. » Seigneur Dieu, je prie que ce message de ce matin soit délivré avec la puissance de ton Saint-Esprit et pour la gloire de Jésus-Christ et pour lui seul. En son nom, je prie. Amen. Alors, j'ai entendu dire que nous avons une image aux États-Unis, que vous avez ici aussi en France, et c'est au sujet d'une vérité que si tu prends une grenouille et que tu la mets dans une eau bouillante, elle va tout de suite sortir de cette eau. Alors, je ne suis pas en train d'encourager la cruauté envers les animaux. Hein. Mais si tu prends cette grenouille et que tu la mets dans de l'eau froide et que petit à petit tu augmentes la température, la grenouille ne va pas s'en rendre compte et elle va finir par être bouillie, morte. Alors, le sujet de cette histoire, c'est que cette grenouille ne s'en rend pas compte. Ça arrive tout doucement, subtilement. Et cette grenouille, elle pense qu'elle est dans un super jacuzzi. Mais en fait, c'est à la fin, ça conduit à la fin de sa vie. Le souci, c'est qu'on peut être comme la grenouille. On vit dans un monde qui n'est pas, qui nous ne conduit pas, qui ne nous aide pas dans notre foi. En fait, les valeurs de l'Église, la valeur du monde dans lequel nous vivons n'est pas du tout les mêmes valeurs que celles de l'Église, que vous soyez en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis ou n'importe où dans le monde. En tant que chrétien, il dit que nous sommes des résidents temporaires et des étrangers. Mais c'est si facile de laisser les choses de ce monde nous influencer et nous distraire de Jésus. Et ça peut nous empêcher d'être concentrés sur Jésus. Et vraiment la vie de Jésus et la vie du Saint-Esprit qui est en nous, elle peut être drainée par l'influence de ce monde. Et ça peut vraiment nous attirer vers ces valeurs qui ne glorifient pas Jésus. Je me souviens, quand j'étais à l'université, j'avais une voiture. Ma première voiture, c'était une Spitfire. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une petite... c'est une petite voiture anglaise. Et moi, c'était une petite voiture de sport. Et en fait, je la conduisais. Et puis, jusqu'au jour où je l'ai... je suis rentrée dans une Cadillac et ma voiture, elle a été complètement détruite. Bon, moi, j'ai survécu. Il y a quelques années, peut-être il y a 8 ans, j'ai vu une autre petite voiture comme ça et c'était une antiquité. C'était pas cher. Et je me suis dit, j'aimerais avoir une voiture comme ça, juste comme celle que j'avais à l'université. Et je l'ai achetée. Et je la conduisais. Et des fois, Dale, elle roulait avec moi pendant à peu près 6 mois. Et après, elle a lâché, elle a cassé. Je l'ai laissée dans le garage. Et parce qu'il y a une chose que vous devez savoir au sujet de ces voitures de sport anglaises, en mécanique, elles ne tiennent pas longtemps. Et si tu n'es pas un mécanicien pour la réparer, ce ne sera pas bon pour toi. Et ce dont je me suis rendu compte, c'est que j'aime beaucoup conduire cette voiture, mais je ne suis pas un mécanicien, je ne sais pas la réparer. En fait,
than having it.
Le fait de vouloir ces voitures est bien plus intéressant que de l'avoir. Parce que ça ne m'a vraiment pas donné le plaisir que je pensais que ça me donnerait. Alors bon, moi, je ne suis pas contre ça, contre ce genre de loisir, d'avoir ces voitures et de les conduire. Mais ce que je veux vous dire, c'est que c'est resté dans ma voiture, dans mon garage, pendant des années. Les choses étaient empilées dessus. Et tout d'un coup, j'ai des choses, j'ai un coup de fil d'une église qui dit, une église en France qui dit, est-ce que vous pourriez être notre pasteur? Et là, je me suis dit, mais mince, il faut que je trouve une place pour cette voiture ou que je m'en débarrasse. Et alors, c'est ce qu'on a fait du 26 mai jusqu'à fin août. Et ben, on a dû trier les affaires. Et voilà, ma conclusion concernant cette voiture, c'est que le plaisir de cette voiture n'a pas été long. Et nous avons dû vendre notre maison. Et je me suis rendu compte que toutes les choses qu'on y avait accumulées, elles ne m'ont pas donné le sens que ça aurait dû me donner. J'avais encombré plein de choses dans mon garage. Et voilà, je vais vous dire qu'il y a des choses qui te distraient de Dieu. Est-ce que les gens qui nous regardent, ils voient nos valeurs, notre différence par rapport à eux? La question, c'est est-ce qu'on ressemble davantage à Jésus ou au monde? Si on était cette grenouille dans cette eau froide dont la température augmente au fur et à mesure, est-ce que nous, on préfère s'intéresser à notre ego plutôt qu'à ce que Dieu pense et ce que veut de nous? Et est-ce qu'on veut plutôt s'intéresser à son propre chemin à soi plutôt que de chercher ce que Dieu veut pour le meilleur pour tous? Est-ce que ma première pensée, c'est mon confort, ma volonté, mon succès, ma popularité, mes possessions, mes propriétés, ma consommation, ou bien plutôt la direction de Dieu, son appel et ce qu'il me révèle? Est-ce que c'est mon ego, c'est mon égocentrisme, égocentricité qui domine? La solution pour ne pas être centré sur soi, c'est en premier de savoir qui est Jésus. Jésus, c'est la pierre principale de l'angle de notre vie. Les bâtisseurs l'ont rejeté. Ils ont rejeté cette pierre principale, mais c'est elle qui est la pierre principale de l'Église et de nos vies. La deuxième chose que nous avons appris la semaine dernière, c'est que nous devons savoir qui nous sommes aussi. Vous êtes un peuple choisi par Dieu. Vous êtes des prêtres royaux. Vous êtes des gens très spéciaux pour Dieu. Il s'est soucié de vous. Il a envoyé Jésus pour mourir pour toi. Et tu lui appartiens maintenant. J'aime ça. J'aime le fait de savoir que j'appartiens à Jésus. J'espère que ça vous fait aussi quelque chose dans votre cœur et que ça vous fait quelque chose que vous appartenez à Jésus. Mais il y a une troisième chose que vous devez savoir, c'est savoir où vous êtes. Alors vous dites, je suis à Tikos, je suis à Strasbourg en France. Non, ce n'est pas ce dont je parle. Moi, je veux vous dire que vous devez savoir que ça, ce n'est pas votre maison. C'est le ciel qui est votre maison. C'est le paradis qui est votre maison. Pour les chrétiens, là où nous allons passer notre éternité, c'est ça, notre maison. notre position a changé, mais comment est-ce qu'on le vit de manière pratique? Alors nous savons qui est Jésus, nous savons qui nous sommes, et je veux vous dire, comme je l'ai déjà dit, que Dieu, et c'est une citation que j'aime bien, Dieu t'aime tel que tu es, mais il t'aime tellement qu'il ne veut pas te laisser tel que tu es. La transformation a besoin de s'accomplir, de se produire. Donc, si nous voulons vivre de manière spécifique, particulière, si nous voulons vivre dans ce monde hostile à notre foi et que nous voulons faire la différence, nous avons trois choses à faire de manière pratique. Alors la première chose, c'est de voyager léger. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, voyager léger? Comment vous dites léger en français?
Voyage léger.
Donc voyager léger, d'accord.
A trip, a light trip. Nah, it doesn't work. You know, it doesn't work. I'll leave it to Deborah to translate.
Donc, je vais essayer de laisser Deborah traduire ça. Donc moi, travel light, c'est avoir un voyage léger. Donc voyager léger.
There's a story about people who are traveling.
Il y a une histoire au sujet d'un groupe de personnes qui voyageaient dans le Moyen-Orient et ils ont entendu parler d'un homme très dévoué, un croyant très dévoué, et ils voulaient rencontrer cet homme pour gagner de la sagesse. Donc ces voyageurs, c'était des chrétiens. Et alors, ils sont allés lui rendre visite et il habitait dans une simple hutte, petite cabane. Et la seule chose qu'il avait dans sa cabane, c'était un petit lit sommaire, une cuisinière cabossée. Il avait une table, une chaise. Et ces gens venus de l'Occident lui ont dit « Mais où sont tes meubles ? Où sont tes meubles ?» Et lui, il dit, mais où sont tes meubles à toi? Et un des voyageurs chrétiens s'est dit, mais c'est à la maison, dans ma maison en Occident. On est juste en train de voyager. Et lui, il dit, moi aussi, je voyage. Moi aussi, je voyage. Vous voyez, il a compris que cette cabane dans laquelle il vivait, c'était pas sa maison, mais que c'était le paradis, le ciel, sa maison. Il savait qu'il était un voyageur, un résident temporaire sur terre. Et nous sommes tous sur ce chemin vers le paradis. Nous avons ici un endroit pour vivre comme cet homme, mais nous ne sommes pas si nous ne devons pas être attachés à ça et porter plus de valeur à ça qu'à notre destination éternelle. Laissez-moi vous poser une question. La durée de vie de la plupart d'entre nous est d'environ 70, voire 90, 100 ans. Alors, je ne sais pas quel âge a la personne la plus âgée du monde, peut-être 114 ans ou quelque chose comme ça. Alors, disons, à peu près, tu vas vivre jusqu'à 100 ans. Alors, tous ceux qui ne veulent pas, qui veulent vivre jusqu'à 100 ans, levez votre main. Et tous ceux qui ne veulent pas vivre jusqu'à 100 ans, ne levez pas votre main. Alors, donnez-moi un nombre.
What? It's longer at the end. That's good. I love it. That's good. It's longer at the end. Well, there's no end, right?
Alors, quelqu'un a répondu, aussi longtemps que l'éternité. Bon, admettons, vous vouliez passer des millions d'années en éternité. Imaginez, vous allez passer des millions d'années à l'éternité, et ici, quelques années. Donc, en fait, sur la Terre, c'est juste une petite pause. C'est anecdotique par rapport au temps que nous allons passer à l'éternité, en éternité. Ici, nous sommes en préparation pour l'éternité, et l'éternité, c'est notre maison. Nous voyageons ici. Vous comprenez ? Alors il leur dit, vous êtes des résidents temporaires et des étrangers. C'est ce que dit Pierre, l'apôtre Pierre. Vous êtes des résidents temporaires. Ce n'est pas la maison ici. Nous vivons notre vie ici avec un certain détachement. Alors, par ailleurs, quand vous venez à un nouvel endroit et que vous ne connaissez pas la langue et que vous ne connaissez pas le code de conduite sur la rue, sur la route, il y a des choses dont vous vous rendez compte, « Ah, mais c'est un peu différent ici. » Et mon sujet, le point que je veux développer ici, c'est que nous sommes vraiment en voyage. Il y a une expression anglaise, je ne sais pas comment le traduit en français, c'est une paraphrase de la Bible, le message, le nouveau message. Ce que dit le verset 11 dans la traduction Le Message, c'est ce monde, c'est pas ta maison, alors ne t'y rends pas douillé, ne t'y mets pas bien douillé, confortable dans ce monde. Un autre point, c'est que Lot, quand il a arrêté d'être un voyageur et qu'il est devenu résident à Sodome, c'est là qu'il a perdu sa consécration et son témoignage pour Dieu.
C'est
quand tu regardes à Jésus que là tu sais ce qui est bon pour toi et pour ta relation à Dieu. Il faut être davantage détaché des choses de ce monde pour ne pas chercher notre sens, le sens de notre vie dans le prestige, dans nos possessions, mais dans le fait que nous appartenons à Jésus. Alors nous devons investir dans les choses qui ont du sens éternel, aimer les gens, servir les gens pour la gloire de Dieu. Et toucher des vies pour sa gloire. Et nous les servons pour sa gloire, pour son honneur. Ça veut dire qu'on espère que quand on arrive à la fin de notre vie, les gens disent de nous, nos enfants ou nos amis diront de nous, « J'ai vu Christ en lui ». Et qui ne vont pas parler à quel point nous étions dans la réussite professionnelle, dans le business, ou le montant de notre compte en banque. Par ailleurs, ça, ce serait vraiment un bon exercice. J'aime pas penser ce qui sera dit à nos funérailles, je m'en fiche. Ça m'est égal parce que je serai avec Jésus. Mais j'espère que mes deux fils diront de moi que moi j'aimais Jésus et que j'aimais aussi mes fils et qu'il aimait notre mère et qu'il se souciait d'elle. Parce qu'elle vit, parce que Jésus était en lui. J'espère qu'ils ne diront pas, mes fils, « Oh, mais il a prêché ça, il a fait ci, il a fait ça. » Non, j'espère que mes enfants diront qu'ils ont vu Jésus en moi. Et j'espère que vous espérez les mêmes choses. C'est ce que vous devez faire, espérer ces choses-là. Et c'est ça ce que ça veut dire, se tourner vers l'éternité. Regardez vers l'éternité. Vous voyez, ça, c'est une belle citation de Mère Teresa qui dit « Vous ne savez pas à quel point vous avez besoin de Jésus jusqu'à ce que Jésus, c'est la seule chose que vous avez. » La deuxième des choses pratiques à faire, c'est de faire la guerre. Quoi ? Mais attends, on est à l'église ici, peut-être tu dis, on n'est pas censé parler de guerre, on n'est pas censé faire la guerre, on est censé être dans la paix. Alors, moi, je ne vous dis pas de faire la guerre aux gens, mais c'est de faire la guerre au désir pécheur que tu as en toi. Ce que je veux dire, c'est que vraiment, tu te fixes sur les désirs qui viennent de Dieu et pas sur les désirs qui viennent du monde. Et le monde, lui, il sait comment nous attirer à lui. Et ça nous vole notre confiance, notre joie en Dieu, notre victoire. Et alors on fait la guerre à la convoitise, à l'avarice. C'est ça qu'il faut faire. Pensez à ce que dit Oswald Chambers. L'amour peut patienter et la louange de manière infinie. Mais la convoitise dit, il faut que je t'aie tout de suite maintenant. Combien de personnes aiment patienter, attendre ? Vous savez, moi, j'ai habité à Orlando, en Floride. J'ai habité là-bas et il y a Disneyland là-bas. Et les gens, ils attendent là-bas dans les files. À moins que tu aies un pass pour aller de tout devant dans la file. Mais bon, Déborah, traduis pas ça. Je me souviens quand Dale et moi, on est allés à l'église, là, il y avait un marathon. Et les rues, elles étaient bloquées ici à Strasbourg. Alors, il fallait que j'aille dans un autre sens, prendre une autre route. Et j'étais là, oh non, non, mince, il faut que je change de direction, de route. Et après, je me suis dit, mais non, attends, c'est pas grave. La convoitise nous dit, je veux tout de suite. La convoitise transforme la personne en un objet. Et nous idolâtrons alors les choses. J'aime bien regarder dans Galates chapitre 5, versets 19 à 21, la liste des œuvres de la chair et me demander où est-ce que je suis le plus vulnérable sur les œuvres de la chair, sur ces tentations. Vous savez, en tant que chrétien, nous devons ne pas être dans un vicieux cycle de péché, confession, et de me dire « Ah, mais Dieu, il me pardonne tout. Oh, il est suffisant pour me pardonner tous mes péchés. » Mais au bout d'un moment, on veut avoir la victoire sur le péché. Amen. Moi, je veux au bout d'un moment voir une transformation se produire. Et pas juste, comme le dit Dallas Willard, juste me poser sur un évangile de gestion du péché. Donc dans Galates 5, voilà, moi je veux voir ça, l'amour, la joie, la paix, la maîtrise de soi, la fidélité. Voilà, tous ces fruits de l'esprit dont il est question. Et si nous ne veillons pas, si nous ne faisons pas la guerre à ces choses-là, nous perdrons la guerre. Fais la guerre. Passe du temps avec Dieu dans la parole et dans la prière. Ce qui se passe quand tu fais ces deux choses, donc, c'est-à-dire quand tu sais que ça, ici, ce n'est pas ta maison, et deuxième point, que tu fais la guerre au mauvais désir, troisième point, il faut que tu laisses ta vie parler.
Dans
1 Pierre, verset 12, « Ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants, afin que là, même où ils vous calomnient comme si vous faisiez le mal, ils remarquent votre belle manière d'agir et rendent gloire à Dieu le jour où il interviendra. » Il y a une histoire par le passé qui dit par le passé, les chrétiens, il y en a, ils disaient qu'ils étaient des cannibales parce qu'ils mangeaient la chair de Christ et le sang de Christ. C'était une rumeur à leur sujet. Alors, ils persécutaient les chrétiens. Et les chrétiens, eux, ils ne voulaient pas idolâtrer des hommes et s'agenouiller pour les adorer. Alors, ils ont été persécutés. Il faut que notre vie soit pure et juste pour qu'elle représente Jésus. Ce n'est pas une négation, un interdit. Non, c'est quelque chose de positif. Il faut que nous soyons de manière juste dans nos attitudes. Et il faut que dans nos actions, nous montrions la bonté de Dieu, comme par exemple les étudiants qui ont donné des couvertures aux personnes sans abri. Une des choses pour laquelle tu dois être en veille concernant ton témoignage, vous savez, est-ce que, par exemple, l'histoire du logo du poisson, vous savez, le signe du poisson. Vous savez, il y en a qui mettent le signe du poisson sur leur camion pour leur business et pour dire « Nous sommes chrétiens, vous pouvez nous faire confiance ». Mais le souci, c'est que certains mettent le logo du poisson à l'arrière de leur camion. Mais en fait, tu ne peux pas leur faire confiance. Ils croient qu'en mettant ce logo, ils auront plus de business, plus de clients. Alors, mais en fait, ce n'est pas des chrétiens. Enfin, ils n'agissent pas comme des chrétiens. Alors, qu'est-ce que c'est que ce témoignage? Donc, si tu mets ce logo du poisson, tu as intérêt à te comporter comme un chrétien. Alors, j'espère que... Moi, je crois que vous n'avez pas ce problème-là ici, hein, c'est ça? Mais c'est vraiment l'importance de vivre pour la gloire de Jésus. Dieu ne nous appelle pas à être isolés du monde, mais il veut que nous soyons des infiltrés avec une claire identité qui ne change pas. Je vis dans un monde auquel j'apporte la grâce, le service. Il y a une histoire dans l'histoire de l'Église. C'était 200-300 ans après Jésus-Christ. Il y avait une épidémie de peste. Et Rodney Stark, qui est un historien de l'Église, disait que les chrétiens mouraient de la peste comme beaucoup d'autres, comme tout le monde, mais contrairement à tout le monde, ils se souciaient, ils prenaient soin des victimes de la peste, même leurs voisins païens. Et ça, c'était pas nouveau. Un siècle auparavant, les chrétiens ont fait la même chose pendant la peste Antonine. Vous savez, les chrétiens restaient dans les villes qui étaient sous ces soucis de peste. Ils y restaient dans ces villes, alors que les leaders païens y compris les physiciens, y partaient de ces villes. Pourquoi ? Pourquoi ils y restaient ? Parce que Dieu avait mis en eux cette envie d'avoir cet amour sacrificiel. Et les chrétiens avaient davantage se concentrer davantage sur les valeurs du ciel plutôt que sur la valeur de la peur. Donc, c'est important de savoir qui Dieu est, qui nous sommes, et troisième point, de savoir où nous allons. Alors, voici mes questions. Est-ce que tu voyages léger ou bien tu compliques ta vie avec des bagages dont tu n'as pas besoin et que tu crois les mensonges du monde qui disent que tu seras plus heureux avec ces choses-là?
Si,
deuxième question, si ça c'est une guerre, comment va ta guerre, la guerre que tu mènes? Est-ce que tu la remportes? Est-ce que tu en es victorieux? Est-ce que tu te gardes des choses mauvaises qui érodent ta vie avec Christ? Et la troisième question, c'est, est-ce que tu es piégé dans ces schémas et tu les vois, mais tu veux t'en sortir, mais tu ne sais pas comment en sortir? Jésus, c'est la réponse. Amen. J'ai lu cette prière. J'ai vu cette prière, et je ne sais pas quelle en est la source, je l'ai oubliée, mais je veux vous la lire. Elle est sur l'écran. Si tu veux une copie de cette prière, on pourra te la donner. Voici la prière. Père, je veux te connaître, mais mon cœur lâche peur d'abandonner ses jouets. Je ne peux pas me séparer d'eux sans un saignement intérieur. Et je ne veux pas me cacher de toi. Non, je ne veux pas cacher à tes yeux la terreur que ce serait de m'en séparer. Je viens à toi tremblant, mais je viens. S'il te plaît, déracine dans mon cœur tout ce que je chéris depuis si longtemps et qui sont devenus une partie de moi. Enlève-les, déracine-les pour que tu puisses entrer et demeurer dans mon cœur sans un rival. Et je veux que ensuite tu fasses ta place. Et que je sois à tes pieds et que cet endroit soit glorieux. Et mon cœur ensuite n'aura pas besoin du soleil pour qu'il brille sur moi, parce que toi, tu seras la lumière de ma vie. Et il n'y aura plus de nuit là-bas. Dans le nom de Jésus, amen. Nous imaginons un peuple, une église qui voyage léger et où les choix ne soient pas d'avoir plus de possessions, mais plus de temps, plus d'argent, plus de compassion, plus de sensibilité, plus de conviction, plus d'engagement les uns pour les autres. Alors, souviens-toi de ces trois choses, de qui est Jésus, de qui tu es, et troisième point, de là où tu vas, c'est-à-dire au ciel. Alors, voyage léger. Vous voulez bien courbez vos têtes avec moi. Alors, Seigneur Jésus-Christ, voici, ce sont des choses plus faciles à dire qu'à faire. Nous sommes attachés aux choses de ce monde et c'est très facile d'être attaché et même d'être trop attaché. Mais, Seigneur, oui, nous vivons ici pour ta gloire. Donne-nous le contentement avec toi et des choses que tu pourvois pour nous. Aide-nous à ne pas nous compliquer la vie avec une accumulation de choses, mais que nous choisissions, Seigneur, la simplicité avec toi. Seigneur, aide-nous, conduis-nous, nous te suivons. Dans le nom de Jésus, Amen.